Hans Erni est né dans le canton de Lucerne en l'année 1909. Des gens de Suisse centrale, il a la carrure solide et les cheveux courts bouclés. Par une pratique quotidienne du sport, il a gardé une musculature souple. Il aime les voitures rapides et il a passé son brevet de pilote. Son rêve, voler avec une aile delta. Claude Roy, l'un de ses biographes, a écrit que chez lui, le bonheur a toujours plus de force que le malheur, la confiance plus de vigueur que l'angoisse, l'innocence plus d'éclat que la méchanceté. De son enfance auprès de son père mécanicien sur un bateau du lac des Quatre Cantons, de son apprentissage de géomètre ensuite, il a gardé la passion de la technique et des sciences exactes. Son œuvre témoigne de la société contemporaine qui est celle de l'industrie et de la technologie. Mais Hans Erni sait aussi être tendre et bucolique, quand au bout de son crayon prennent forme et vie la femme, l'enfant ou l'animal. Sa demeure sur une petite colline de Lucerne est surprenante. Là, une collection de coquillages derrière sa vitrine. Ici, une table de bricoleur. Là, une autre, qui pourrait être celle d'un ingénieur. L'atelier classique du peintre, on le cherche en vain. Il est partout dans la maison. Aucun objet n'est inerte. L'artiste s'est créé son cosmos en réduction et lui maintient sa dynamique par le geste et la parole.
Mon père était machiniste sur le lac et, vous savez, les bateaux à vapeur des lacs suisses n'ont pas eu de clients en ce temps, ainsi le paye de ces gens n'ont pas été très favorable. Mais nous avons eu une famille de 8 enfants. Alors de nourrir 8 enfants pendant la Première Guerre mondiale, ça n'était pas si facile.
Vous avez donc dû travailler très tôt.
Ce n'était pas encore à ce temps, parce que j'étais... Au moment de l'éclatement de la guerre mondiale, la première, j'avais eu 5 ans. Ainsi, on était vraiment marqué par ceux qui sont été les difficultés de la vie. Nous avons naturellement tout de suite touché l'idée mécanique dans les bateaux, mais sous la ligne de l'eau, parce que on était toujours sous l'eau, dans la cabine de mon père, près de la machine, avec les vapeurs. Le mécanicien avait toujours une petite case là. Je me souviens, il y avait la naufrage.
Naufrage, oui.
Un Titanic au mur, ça veut dire aux parois. Et alors, comme ça, le mécanicien avait la possibilité de se retirer un petit peu pendant les trajets.
Vous n'avez jamais perdu ce goût de la mécanique et de la technique dans votre existence et dans votre œuvre?
Non, je pense même que toute occupation avec la technique et la science m'ont amené même au centre de ce que je pense est ma vie. Parce que je ne peux pas traiter l'entourage. Je ne peux pas traiter la question de la pollution de l'eau ou des tâches de cette sorte sans connaissance, sans la connaissance biologique, etc. Ainsi, j'ai aussi fait un travail avec les Anglais, une encyclopédie avec Julian Huxley. J'ai participé, j'ai eu la direction artistique et purement et simplement pour avoir l'obligation de parcourir toute cette étoffe, cette matière de l'encyclopédie. C'est pour ça que j'ai fait ce travail.
Vous avez un goût prononcé aussi pour les sciences exactes, pour la mathématique.
Oui, mais ça devient probablement aussi de mes toutes premières occupations. J'avais fait un apprentissage de dessinateur d'architecture et avant même, j'ai commencé comme un être géomètre. Ainsi, la nécessité de précision, de l'ordre, je crois que ça m'est resté.
Vous vous souvenez de votre premier dessin?
Oh, ça c'est difficile, parce que ça doit être dans un de ces peu de bouquins que mon père possédait. Il possédait une armoire, et vous savez, dans la Première Guerre mondiale, en l'école, on ne travaillait pas sur papier, on travaillait sur
des ardoises.
Oui. Ainsi, nous n'avons pas eu des papiers, sauf les plans de la circulation des bateaux qui sont vides à l'arrière. Et chaque mois, quand ils s'étaient épuisés, mon père les apportait à la maison et on dessinait toujours à l'envers de ces plans de circulation.
Sur les horaires des...
Les horaires, oui. Alors, je crois que c'est vraiment avec mon père qui dessinait très, très bien, qui faisait même des jouets comme ce taureau que vous voyez. Pour nous enfants, les jouets ne sont pas été des jouets achetés, sont été tous des jouets faits comme ce bateau que vous voyez là, que mon père me faisait à nous tous. Ainsi, le climat de dessin, ça a été, comme j'essaie de dire, ma respiration.
Mais enfin, un jour, il a quand même fallu prendre votre propre destin en main, Tsernyi. Alors, comment ça s'est passé?
Je crois que mes chefs dans l'apprentissage, les architectes, m'ont beaucoup aidé à devenir plus libre. Parce que, au fond, je n'ai pas travaillé dans le vrai sens d'un dessinateur, mais j'ai été toujours occupé pour faire les perspectives, pour gagner des concours. Ainsi, le fait de pouvoir dessiner comme ça dans l'architecture m'a toujours fait un grand plaisir. Mais l'architecture n'est pas seulement de faire des beaux dessins et de mettre l'architecture dans la perspective. C'est aussi le calcul. Mais le calcul a été la chose diamétrale, contraire à mes idées. C'est au fond, je crois, que cet aspect calcul, l'aspect commercial, qui est aussi une partie de l'architecture, m'a mis lentement en dehors de cette tâche et m'a mis plus en plus d'abord un petit peu vers l'idée de la publicité, parce que avec la publicité on gagne des sous, et plus tard j'allais à Paris à l'Académie Julien et une année à l'Académie de Berlin. Ainsi, ça se prouvait de plus en plus que je devrais devenir peintre, sans que je sais maintenant encore comment ça s'exprime pour un homme d'être un peintre.
Donc vous ne savez pas en ce moment aujourd'hui encore quand Hans Tsernyi est devenu Hans Tsernyi.
Non, et j'espère que je ne le sais jamais, parce que si on sait quelque chose tellement fixe, je crois qu'on a déjà acquis une sorte de stabilité, et j'aimerais que toute ma vie ne sera jamais stable, mais dynamique, et que chaque journée, chaque matin, m'apportera de nouveaux idées pour me renouveler.
Vous parlez justement de renouvellement, Hans Tsernyi. Or, on vous reproche un peu dans ce pays d'exploiter une recette que vous êtes un peu seul à détenir. Que vous faites un peu toujours la même chose. Quand vous faites des affiches, quand vous faites des décorations murales, etc., ou que vous illustrez des livres.
Je ne sais pas si cette reproche est justifiée. À mon avis, il ne l'est pas. Parce que vous avez mentionné les affiches. Comparer les affiches pour l'introduction de l'assurance pour les âgés, comparer celle avec l'affiche contre la pollution des eaux, comparez-le avec l'affiche que je fais juste maintenant pour musique et société pour Jean Gabu, l'ethnographe. Alors, je pense qu'il y a là une sorte d'arc qui est assez différencié pour qu'on peut dire que chaque tâche que j'entreprends redevient une recherche et une volonté de la traiter de façon que ce sera quelque chose de nouveau, d'original.
Même si un certain nombre de techniques restent les mêmes.
Alors, aussi là, je ne suis pas du tout d'accord. Les techniques, j'avais jamais employé les techniques d'acryle que depuis quelques années. Je n'ai jamais employé la possibilité d'un relief en métal, même en métal éloxé en couleur, comme je l'ai appliqué pour l'ICAO, c'est l'Organisation mondiale pour l'aviation de l'ONU, à Montréal. Alors, il y en a, à mon avis, un constant renouvellement, pas seulement par ce que nous entoure directement, mais aussi par les nouvelles matières qui sont au service de l'artiste.
À propos de matière, Anserny, vous travaillez aussi bien donc, que ces nouveaux matériaux qui nous sont donnés à présent par les techniques modernes. Vous travaillez la mosaïque, vous travaillez la pierre, vous travaillez le fer, vous travaillez tout, si je comprends bien.
Oui, je peux vous dire que l'intérêt n'est pas fixé vers quelques directions. L'intérêt est toujours fixé à la tâche que vous avez en main. Ainsi, si c'est une timbre-poste, petite comme ça, si vous pouvez le traiter comme quelque chose, comme une carte visite d'un pays dans l'étranger, ainsi j'ai connu la question des portraits des grands hommes comme Ramu, comme Corbusier, etc. Alors, je traite le moindre petite chose comme une timbre postale avec exactement le même enthousiasme, avec la même dévotion, comme je traite cette grande fresque que je mentionnais pour Montréal.
Quand vous avez reçu commande pour une affiche ou pour une décoration murale, etc., qu'est-ce que vous ressentez devant l'œuvre que vous devez accomplir? Est-ce qu'on vous impose d'abord un sujet ou est-ce que c'est vous qui le choisissez et que vous l'élaborez selon vos propres goûts, vos propres désirs, vos propres souhaits?
D'abord, je ne peux accepter qu'une petite partie des commandes maintenant. Malheureusement, ça n'était pas ainsi dans la jeunesse. Mais maintenant, je peux choisir. Et je ne crois pas que vous avez jamais vu une affiche ou quelque chose de propagande de moi qui ne sert pas soit un but culturel, soit un but social. Ainsi, vous ne voyez dans aucune de ces affiches un élément comme la volonté de vous prouver que cette pâte dentifrice est mieux que l'autre, ou bien la bière, ou bien l'alcool en général, ou bien de fumer. Là, je ne pourrais pas m'engager. Il y a un engagement dans la volonté d'essayer à créer pour l'ensemble de la société une sorte de montée du niveau culturel et social. C'est dans ce sens, je crois, qu'il y a même une vocation dans une vie entière.
Anserny, vous venez de vous exprimer ici vos préoccupations sociales. Ces préoccupations sociales, elles se sont manifestées très tôt et vous avez même été communiste.
Je veux bien distinguer les idées communistes sont encore aujourd'hui, dans le fond, les mêmes, et ils sont, s'ils sont purs et s'ils ne sont pas dogmatisés, alors c'est la beauté et je pourrais le comparer avec le christianisme. Parce que là-dedans, c'est vraiment l'idée de la vie de l'homme d'aujourd'hui. Ça a été aussi toujours l'idée des hommes. Dans le christianisme, c'était le même but, c'était l'idée d'avancer comme homme dans la société. Et un homme qui perd ses perspectives de vue est un homme perdu. Mais je voudrais bien distinguer que c'est autre chose de suivre des buts sociaux, des buts humains, que de suivre des dogmas. Parce que je distingue très très clairement de tout ce qui est parti et de ce qui est idéal. Et je ne veux même pas dire idéologie, parce que si vous rapprochez ça en idéologie, vous allez déjà couper de toute votre liberté dans votre pensée.
Votre engagement politique vous a valu, après la guerre, beaucoup d'inimitié en Suisse, parce que vous étiez allé une fois en Union soviétique après la guerre.
Oui, j'y étais. Même tout de suite après la guerre, j'étais dans un congrès des intellectuels pour la paix à Wroclaw, l'ancien Breslau. Et c'est là où j'ai pu rencontrer, au fond, toute cette élite mondiale qui a eu, après cet désastre de cette Deuxième Guerre mondiale, une seule volonté de faire tous dans la vie pour la paix. Et dans ce sens, parce que ça a été un congrès conçu et dirigé par les Russes, alors ça a été une paix russe. Et ceci m'a valu naturellement un grand coup sur la tête en rentrant de ce congrès.
C'était une époque où justement on n'aimait pas beaucoup les communistes en Suisse, et puis aux États-Unis il y avait le macartisme.
C'est peut-être intéressant de savoir que pendant que j'avais aucun moyen de vendre une toile en Suisse, j'avais une centaine d'expositions en Amérique, malgré le macartisme. On ne m'a jamais privé d'aucune possibilité d'exposer, mais je n'avais pas la permission en ce moment d'entrer en Amérique.
Et en Suisse, comment cela se passait ? Hans Czerny, on le laissait exposer ses œuvres, on lui achetait ses œuvres ?
En ce moment, j'ai eu pas mal d'expositions, des petites expositions, mais j'ai jamais, ou presque jamais vendu. Plus tard, naturellement, ça s'est changé, et je crois que si tout ce que j'ai pu, acquérir dans ma vie a été d'abord sur la base de tout ce que j'ai pu envoyer en Amérique, que c'est maintenant là un petit peu un changement de cette situation.
À côté de l'aspect commercial, tout le monde doit vivre, c'est bien évident, vous essayez toujours malgré tout de faire en sorte que votre art soit absolument utile sur le plan social ou sur le plan culturel.
C'est bien que vous dites utile, parce que l'idée de l'art, c'est vu, on peut le voir sous deux aspects, c'est l'idée de réjouir et être utile. Ni l'un ni l'autre est facilement à expliquer. Mais au fond, si vous avez un art dans lequel ne reflète rien de ce qui est votre réjouissement, ou bien si un art ne reflète rien de ce qui est d'une utilité culturelle, sociale, formale même, alors c'est aussi pas de l'art.
Hans Czerny, vous n'avez jamais appartenu vous-même à aucune chapelle, à aucune école. Au fond, si on devait vous situer quelque part dans la peinture moderne, on ne saurait guère où vous mettre.
C'est d'une côté mon bonheur, et d'autre côté, un malheur. Parce que si on appartient à une chapelle, ou bien si on est lié à un marchand, on a pour soi la possibilité d'être porté par cette chapelle ou bien par cette marchand à travers le monde entier. J'ai essayé à ne faire autre chose que ce qui est possible par mes mains, sans aide ni d'une chapelle, ni d'un marchand. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des expositions dans des galeries, mais j'ai été jamais lié à un marchand qui pourrait m'indiquer que c'est vers cette direction ou bien dans cette technique qu'il aimerait avoir des tableaux.
Hans Czerny est un homme résolument indépendant.
Je ne peux pas dire qu'on est indépendante. C'est nécessaire que vous voulez être toujours indépendant.
Vous arrivez à la préserver, cette indépendance, en dépit peut-être de la célébrité que vous avez maintenant.
C'est même à travers tout ce que vous dites. Vous avez mentionné qu'on est fortuné, qu'on a une certaine célébrité. C'est là. Si vous utilisez ces deux choses ou encore d'autres aspects de la vie, à vous renouveler et à vous remettre dans tout ce qui est en question. Seulement, en ce moment, cette célébrité en parenthèse et cette richesse en parenthèse peut vous aider. Si vous prenez ça comme un petit bourgeois et vous commencez à vous réjouir de tout ce qui est ça, alors vous avez déjà préparé votre tombeau.
En somme, et pour conclure, Ancerny voudra rester jusqu'à la fin de sa vie d'abord un artiste.
J'aimerais rester aussi fraîche comme au meilleur moment de la vie où vous sentez une sorte d'ouverture et de possibilité de pouvoir donner, contribuer quelque chose à ce que l'humanité s'achève dans le sens de la paix.
En son âme et conscience s'exprimait aujourd'hui l'artiste Hans Erny. Dans un mois, nous recevrons une autre personnalité suisse. Merci de votre attention et bonne fin de semaine. Thank you.